Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous avez dès aujourd'hui sur le site de Cube Radio un nouveau balado que je vous recommande puisque c'est moi qui le co-anime avec mon mari Richard Martineau. On a rencontré il y a quelques semaines de ça l'excellent journaliste Pierre-Olivier Zappa et c'était avant qu'on sache qu'il allait devenir le futur présentateur du 22h à TVA. On lui a posé beaucoup de questions à Pierre-Olivier Zappa pour mieux le connaître et entre autres on est revenu avec lui sur cette fameuse question qu'il avait posée au PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, sur sa connaissance du français. Voici un petit extrait de ce balado « L'apéro piquant » avec Pierre-Olivier Zappa.
Il fallait avoir une réponse à une question très simple, puis on n'arrivait pas à l'avoir. Puis c'est certain que Pascal Derry, là, qui est responsable des communications d'Air Canada, a fait son travail, là, essayer d'évacuer la question, mais c'est devenu incontournable lors de ce point de presse-là. Puis ce que j'ai trouvé quand même très fort dans tout ça, c'est que des semaines, des mois après ça, là, les dirigeants au Québec qui sont unilingues anglophones ont peur.
Oui. Oui. On l'a vu, par exemple, l'affaire du CN.
Du CN. Le PDG de SNC-Lavalin avait une conférence de prévu quelques semaines après celle de Michael Rousseau. Il l'a annulée devant la communauté d'affaires parce qu'il parle pas français. Et là, t'as des vice-présidents aux communications de grandes sociétés qui m'ont appelé aussi en disant, là, si on fait un événement, puis notre PDG est là, est-ce que les journalistes vont le questionner sur la langue?
Je dis, bien sûr.
Ah, ben là, vous êtes... Et là, il y en a plusieurs qui posent la question, allez-vous faire la même job que vous avez fait à Michael Rousseau? Je dis, ben, de quel job parles-tu? On a simplement posé des questions.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand des journalistes posent des questions et qui se font reprocher d'aller fouiller un peu trop loin. Très intéressant, vraiment, ce balado avec Pierre-Olivier Zappa. Je suis convaincue qu'à plusieurs moments, vous allez pousser un très intrigué « Ben voyons donc ».
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Mon collègue Patrick Derry est bien sûr de temps en temps animateur, de temps en temps chroniqueur et tout le temps analyste en politique publique. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie.
Merci d'avoir animé cette semaine en remplacement de Benoît Dutrisac. Ça a été vraiment très intéressant de t'écouter, surtout dans tes échanges avec mon mari. J'ai beaucoup aimé votre dynamique à tous les deux, Patrick.
Oui, on a beaucoup de plaisir. On a beaucoup de plaisir. De mon côté, c'est ça, le métier rentre. Je ne sais pas comment ça sort, mais à l'intérieur, disons, ça...
Le métier rentre, tu sais pas comment ça sort. C'est bon, c'est un bon jeu de mots. Patrick, revenons à nos moutons, comme on dit. Tu veux nous parler d'une petite astuce de Simon Jolin-Barrette. De quoi il s'agit exactement? Puis je préviens tout le monde, on s'apprête à parler de constitution, mais je vous préviens, ce sera pas plate.
Non, c'est ça. Écoute, tu sais, Simon Jolin-Barrette, là, c'est le ministre de la Justice, ministre de la langue française, aussi leader parlementaire à la CAQ. C'est un petit vite ou un petit wise, je sais pas comment le présenter, mais en tout cas, c'est un gars qui aime les astuces. Un ratoureux, ça serait, je pense qu'il serait même assez heureux de se faire décrire comme ça. Et lui, j'imagine, son équipe juridique a trouvé une brèche pour modifier la Constitution canadienne. Et de façon unilatérale, c'est-à-dire sans demander la permission aux autres provinces ou même au gouvernement fédéral. On parle bien de la Constitution canadienne de 1867. Et je vous épargne le mécanisme, mais on a pu ainsi inscrire que les Québécois, des caractéristiques fondamentales du Québec. Donc, les Québécois et les Québécoises forment une nation. Le français est la seule langue officielle du Québec et le français est la langue commune de la nation québécoise. Mm-hmm. Monsieur Jean Barrette était tout heureux de ça, montrer sa nouvelle constitution réimprimée avec les ajouts. C'est bien le fun. Bon, d'abord, je suis pas sûr que ça change grand-chose. On va laisser les constitutionnalistes en discuter, mais tu sais, le principe de la nation a déjà été reconnu par le gouvernement fédéral par une motion.
Oui, pas n'importe qui, Stephen Harper. Oui, c'est ça, parce que c'est important de dire que c'est les conservateurs qui ont reconnu ça quand même. C'est important, là.
Les conservateurs l'ont reconnu, puis ça a été fait à la Chambre des communes, donc c'est dans les livres au gouvernement fédéral. Évidemment, le français est la langue officielle du Québec depuis un bon moment. Puis, quant à la langue commune, moi, j'ai plus de difficultés à imaginer la portée juridique parce que, tu sais, on ira quand même pas vérifier si chaque Québécois parle français tout le temps. Là, c'est un peu une définition. C'est un souhait, c'est un consensus. Même en fait, la plupart des anglophones sont d'accord avec ça, mais c'est comment ça s'applique, c'est une autre chose. Mais l'angle mort de tout ça, c'est que l'Assemblée nationale au Québec n'a jamais voulu signer la Constitution du Canada. Il n'y a aucun parti au Québec depuis le rapatriement unilatéral, il y a 40 ans. C'est ça, en 82, parce que notre Constitution, la Constitution du Canada, ne nous appartenait pas. On est allé la rechercher en Angleterre. La reine l'a signée avec le ministre Trudeau, père de l'époque. Et même le Parti libéral n'a jamais reconnu ça. Pourquoi? Parce que ça s'est fait contre la volonté du Québec. On le rappelle, il y avait eu des négociations constitutionnelles. Il y avait un front unanime des provinces à un certain moment. Et encore là, sans entrer dans les détails, le Québec est resté couché de l'autre côté de la rivière des Outaouais et les provinces se sont entendues. Puis on a
la nuit des longs couteaux.
C'est ça, contre le gré du Québec. Et c'est quand même... Et là, la CAQ vient de faire un espèce de pas en arrière. C'est-à-dire que implicitement, en inscrivant ça dans la Constitution, on vient de donner une légitimité additionnelle. Et là, moi, je suis pas dans un... je veux pas partir dans une dynamique souverainiste, fédéraliste ou ainsi de suite. Du point de vue même fédéraliste, c'est un gros problème parce que c'est quoi une constitution? C'est le contrat fondamental qu'on fait à la naissance d'un pays. Les Américains, ils l'ont fait quand ils ont signé leur
1776.
Propre constitution.
Oui.
C'est ça. Après la déclaration d'indépendance, après la Constitution quelques années plus tard. Et donc, tu as des négociations entre les représentants des différentes colonies pour en arriver à une entente. Puis, au Canada, malgré qu'il y avait eu une conquête un siècle avant, ça a été une négociation entre ce qui était l'Amérique du Nord britannique à l'époque, puis le Québec, l'Ontario, les premières provinces, il y avait le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'était une entente entre quatre provinces, c'était un contrat, on a défini des règles, les provinces ont créé le gouvernement fédéral, lui ont donné des responsabilités, parce qu'il faut le rappeler, le gouvernement fédéral, c'est une créature des provinces, hein? C'est pas le gouvernement supérieur, c'est un autre niveau de gouvernement pour des questions nationales. À l'époque, il y avait le chemin de fer, parce que la poste, évidemment, la défense nationale, fait que c'est un contrat, et là, tu signes ce contrat-là, et la journée où tu changes le contrat, ben tu vas revoir les partenaires. C'est pas une question purement politique, je vote rouge, je vote bleu. C'est on change les règles, on intègre de nouvelles règles, et là, ben on va négocier, tu sais, pour s'entendre. C'est un peu comme dans un match de hockey, deux équipes, dans une ligue de garage ou même la Ligue nationale, il y a des règles qui existent. Puis il y a un arbitre, les tribunaux, mais un arbitre sur la glace. Voici comment ça va fonctionner. S'il y a une chicane, ça va être le juge, l'arbitre qui va appliquer. On commence à jouer, mais quand la partie est commencée, en cours de route, on n'arrivera pas. OK, bon, ben là, c'est 2-1 pour nous autres, c'est qu'on va changer telle règle, puis oh, pas comme ça que ça marche. Et Là, moi, je sais pas. Il va falloir voir comment ça se déroule. Il y a une valeur de symbole à ça. Puis c'est sans doute populaire. Puis ça y va avec
voilà.
le message que...
Mais tu viens de dire le mot-clé. Et tu dis, il y a une valeur de symbole. Et c'est pas rien, quand même. Une nation qui s'affirme comme nation, qui reconnaît la langue commune, c'est pas rien en 2022, non?
Ben, c'est parce qu'on se le reconnaît nous-mêmes. Parce qu'après ça, regarde, moi je pense qu'il y a encore quelque chose à formaliser. Il y a un malaise à ce que presque le quart de la population du pays n'ait jamais ratifié par ses représentants la constitution qui est censée les représenter. Et il va falloir que ça soit réglé. Mais sauf que là, on vient de s'enlever un argument parce que la prochaine fois qu'on va y retourner, pas nécessairement pour faire comme levier pour faire la souveraineté, mais juste pour dire, écoutez, on peut sur-régulariser ça, puis il y a des choses à arranger ici, on va se faire dire, ben regardez, vous l'avez fait par vous-même, puis le reste, là, ça veut dire, vous êtes correct avec, hein, ce qu'on a mis en place en 1982, ce qu'on n'a pas inclus avec Meech, par exemple, qui étaient des conditions qui étaient intéressantes pour reconnaître certaines choses spécifiques au Québec et qui n'étaient pas symboliques, ben on n'a pas besoin. C'est pas nécessaire. On fait ça mm-hmm. en dehors de la Constitution. Ça reste dans le flou. Ça veut pas dire nécessairement que ça n'a pas de valeur parce que c'est des ententes. Puis la Constitution, c'est aussi des conventions constitutionnelles non écrites. Mais à ce moment-là, ben, c'est sujet au jeu politique. Et moi, je suis pas sûr. Je pense qu'on vient donner un argument de plus pour dire, écoutez, on enterre ça. Puis c'est un petit peu malheureux. Et il y a quand même quelque chose qui est un peu désolant de voir que il y a une province qui n'a jamais, même si il n'y aura peut-être pas sans doute pas de référendum à court terme, puis la plupart des Québécois sont à l'aise avec ça, puis c'est correct, il y a tout à fait des raisons pour dire que le Canada évolue très, très lentement dans la bonne direction, mais on n'a pas signé le contrat de base de formation de ce pays-là. Voilà. Ça s'est fait contre une partie de sa province.
Ouais, ça c'est sûr que c'est très 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 clair et c'est important. On le rappellera jamais assez. Écoute, de la Constitution, on va parler du Parti libéral du Québec. Parle-moi de Marc Tanguay. Pourquoi tu veux me parler de cet avocat?
Parce que c'est un bon, évidemment avocat, mais aussi député de la Fontaine qui a occupé différentes fonctions. Il est rendu sur des dossiers économiques. Il a été sur la famille avant, il a été leader parlementaire, il a été aux décisions démocratiques. J'ai perdu le compte parce qu'il a bougé un petit peu. Bon, évidemment, c'est un plaideur, c'est un spécialiste des effets de toge et c'est, je dirais, un des députés les plus détestablement partisans à l'Assemblée nationale. On est vraiment dans les slogans, dans les colibets, dans regarder comment le gouvernement est épouvantable parce que si, parce que ça, puis en ajoutant des adjectifs puis des adverbes. Et évidemment, il est dans une circonscription qui est peinturée en rouge de tous les côtés. La Fontaine, c'est le comté de Tony Tomassi. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était le ministre responsable
des garderies
à l'époque. Puis il y avait des petits problèmes avec les permis de garderie. Il y avait aussi un problème avec la carte de crédit de M. Tomassi qui était remboursée par une entreprise.
C'est vrai! Oui,
ça faisait un peu désordre. Et mais les électeurs de La Fontaine n'en ont jamais vraiment voulu au Parti libéral parce qu'ils ont réélu après ça M. Tanguay, puis je crois dans au moins un cas avec une majorité encore plus forte qu'avec M. Tomassi. Donc, pourquoi qu'on parle de Marc Tanguay? Parce que il a compté deux gros buts cette semaine, mais dans son propre filet. En début de semaine, quand il y a eu l'annonce de M. Drainville qui passait à la CAQ, et là, M. Tanguay est sorti, et là, on sait que M. Drainville s'est plié sur le cœur pour dire qu'il n'est plus vraiment souverainiste, pour passer à autre chose, que c'est un vieux débat. Puis, il se croit sans doute pas complètement lui-même, il fait une sorte d'acte de contrition. Puis on sait aussi que la CAQ est fondée, c'est une coalition. Il y a des fédéralistes dans la CAQ aussi. Il y a des souverainistes, mais il y a des fédéralistes. Puis le contrat de base, c'est on fait pas de référendum. C'est ça le plan de match. On va être nationaliste, mais fédéraliste. Bref.
Oui, puis c'est le point 1 du programme. Le point 1 du programme, c'est de dire, en gros, là, défendre les intérêts du Québec, mais dans le Canada. Donc, c'est quand même assez clair. Hein?
C'est assez clair, puis personne n'en doute. M. Legault, d'ailleurs, a fait lui aussi de multiples contorsions pour finir par dire qu'il était fédéraliste, mais tu sais, ça a dû y faire mal quand c'est sorti. Bref, Monsieur Tanguay, lui, est arrivé pour dire « Ah, ah, Bernard Drinville, ça va faire la souveraineté à la carte, ben c'est ça le plan, puis bon, là, les effets de toche. » Mais tu sais, des fois, quand tu craches en l'air, là, et là, le passé de Marc Tanguay ressort, puis c'est assez drôle, parce que Marc Tanguay, là, ça a déjà été un péquiste extrêmement convaincu.
Hein, ah oui, j'avais oublié ça.
Il a été membre du PQ Jeunesse. Il a fait partie des visages de la campagne du oui en 1995. Donc, il était dans les pubs pour le référendum. Il a aussi, de façon anecdotique, c'est drôle, il a été chef des Bleus dans le Parlement étudiant. Puis moi, j'étais au Parlement étudiant en même temps que Marc Tanguay. À ce moment-là, il y avait les Rouges puis les Bleus, parce que c'était le nom des vrais partis. Et du côté des... C'était les Rouges parce que plus personne ne voulait s'appeler fédéraliste à ce moment-là, parce que c'était dans l'après-midi. Tu comprends le contexte?
Trop drôle.
C'était les Rouges, c'était inclus. Tu sais, il y avait toutes sortes de monde. Il y avait du monde affilié PLQ, affilié ADQ, même
oui,
affilié
je comprends.
PQ, puis affilié rien pantoute. Mais les Bleus, c'était une succursale du PQ Jeunesse. Et M. Tanguay, qui était alors chef, il était pas parmi les plus modérés. Et là, tout d'un coup...
Il était bleu foncé.
Je dirais pas bleu royal parce que c'est pas la reine, mais en tout cas, il était bleu fluo, mettons. Et fait que là, sachant tout ça, il s'en va quand même rentrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en pensant que personne ressortirait ça.
Très drôle.
Là, il a l'air fou. Fait que ça c'est le premier but. Mais il en a compté un deuxième parce que là, Québec solidaire a déposé un projet de loi pour rendre officiel le serment d'allégeance à la reine. Puis on sait que Sol Zanetti, un député solidaire...
Je l'ai interviewé à plusieurs reprises là-dessus, puis il est vraiment un anti-monarchiste, et on l'applaudit pour ça d'ailleurs, bravo Sol. Ça vient le chercher au triple.
Ben, tu sais, on s'entend là, tout le monde s'entend que c'est complètement anachronique. Tu sais, c'est resté de même parce que c'est resté de même. Puis, je veux dire, même tu sais, la reine, la Constitution est rendue ici, là, tu sais, on en parlait justement.
Oui.
Et donc, en fin de session parlementaire, la CAQ avait promis de faire passer un projet de loi de chacun des partis d'opposition. Ça, c'est quand même bon. Et ils ont dit, bien, parfait, on va faire passer votre projet de loi là-dessus, monsieur Zanetti. Et ça prend, par contre, qu'on est rendu à la fin de la session, ça prend le consentement de tous les partis. Et qui a refusé le consentement? Le Parti libéral, et qui a fait une montée à l'emporte-pièce pour défendre l'ordre constitutionnel, Monsieur le Président, Marc Tanguay.
Non, mais ça, je m'excuse. Est-ce que pour faire une analyse des motivations, parce qu'il faut toujours chercher le motif du crime, c'est pour pas déplaire à la base anglophone, parce qu'on le sait.
C'est pas ça. Moi, je peux te dire, là, j'ai fait une plongée dans le Parti libéral à un moment donné.
Oui, il paraît, hein?
Je sais qu'à l'époque, tu sais, j'ai entendu dire qu'il y avait des députés anglophones de temps en temps qui disaient à M. Tanguay de se calmer sur les questions monarchistes. Fait que, tu sais, c'est vraiment lui qui représente un peu cette faction-là. Il a donné d'autres arguments publics, mais ça semble lui tenir quand même à cœur. Et ceci dit, même de ce point de vue-là, parce que les parts de l'ordre constitutionnel, c'est mal fondé, parce que je rappellerai que le Québec a déjà eu un Sénat, hein, une assemblée législative, et le Québec l'a aboli. Pourtant, c'était dans l'ordre constitutionnel aussi. Mais bref, il y a un certain nombre d'aménagements qu'on peut faire aussi.
Ben oui.
Et le serment d'allégeance, honnêtement, là, je pense pas que la reine va traverser l'océan pour ça, puis ni que ça va se rendre à la Cour suprême. Mais et là, ça donne une manchette, le PLQ à la défense du serment de la reine. Et là, je me demande pourquoi au PLQ on laisse M. Tanguay aller, là, parce qu'il est comme dans une dynamique. Il est en guerre référendaire encore, sauf que il est habitué au slogan de dire ah, ça y est, il va y avoir un référendum, sauf que c'est plus le PQ qui est en avant de lui. Hein? Fait que crier référendum quand ton adversaire
n'a pas
faire de référendum,
ben non.
Ça se peut que ça marche moins bien, mais lui, en tout cas, fait que c'est 2-0 pour M. Tanguay, mais malheureusement, contre le Parti libéral.
Ouais. Écoute, très intéressant, puis on avait un troisième sujet, mais on manque de temps, donc ça ira à la semaine prochaine. Il nous reste quand même une belle semaine à passer ensemble la semaine prochaine. Patrick Derry, donc collègue ici à Cube Radio et aussi analyste en politique publique. Merci beaucoup pour tes précieuses réflexions.
Merci à toi, Sophie. Bonne journée.
Découvrez goûter le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Très bientôt, ce sera le Grand Prix de la Formule 1 de Montréal. Et les deux mots qu'on entend le plus souvent ces temps-ci associés au Grand Prix, ce sont les mots « bling » et « bling », comme dans l'expression « bling bling ». Est-ce que vraiment le Grand Prix de la F1, c'est « bling bling » ? Est-ce que les gens qui fréquentent cet événement-là sont tous des douchebags ? Ben non, vous le savez, j'exagère. J'avais envie de jaser tout ça, puis de m'amuser un petit peu. Alors j'ai pensé à mon ami Michel Barrette, humoriste, acteur animateur de télé, etc., de radio, bref, il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas fait, et grand amoureux des voitures qui font vroom vroom. Bonjour Michel.
Bonjour, tu t'es dit ce matin j'ai trouvé un vieux bling bling, puis je vais...
Oh non! Ben toi, t'es ni douchebag, ni bling bling, alors non, mais c'est juste pour taquiner, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté grosse corvette, petite quéquette, il y a un côté où c'est vraiment le stéréotype des gars qui expriment leur virilité ou leur testostérone avec les voitures. Est-ce que c'est ça le Grand Prix?
Des gars et des filles, je pense que les week-ends de Grand Prix, c'est le moment où tout le monde se prend pour millionnaire. c'est vrai, tu vois des gens qui sont achetés une voiture, mettons, une Corvette. T'sais, c'est quand même pas une voiture qui vaut des centaines de milliers de dollars. Mais là, on s'habille, on sort les Jewels, on s'en va sur Crescent, on a lavé la voiture, puis là, on se prend vraiment pour une star. On rêve de rencontrer des stars. C'est comme si les week-ends de course, il y a spécialement au centre-ville, je te dirais centre-ouest, justement Crescent, tout ce qu'il y a autour, là. Où là, on marche, puis là, on a l'impression de vivre ailleurs, d'avoir un petit peu de Monaco en nous, un petit peu de
d'international,
Miami, South Beach, tout. Ça me fait bien rire, parce que les vrais amateurs de course automobile sont pas bling-bling. Je vais te donner un exemple. Surtout lorsque les Grands Prix sont dans des villes où le circuit est tout près du centre-ville. Je pense à Montréal, bien sûr, je pense à Monaco. Parce que on voit pas ce même phénomène-là, mettons, à Hongrie ou en Allemagne, parce que le circuit est loin des grands centres. Alors, il y a comme une espèce de proximité, il y a comme une fièvre, mais qui appartient pas à la course. Oui, à quelque part, parce que c'est un week-end de Grand Prix, mais les vrais amateurs, hommes ou femmes de course automobile, ils sont dans les estrades, exemple, au circuit, ils sont pas dans les loges corporatives où tout le monde fait plus de show-show que de course. Moi, j'ai été invité à plusieurs occasions, merci à ceux qui m'ont invité, les compagnies de pneus puis de voitures, mais tu sais, tu manges des crevettes grosses comme des bananes, puis là, il y a des TV, puis là, la course, puis t'es à côté des puits, mais un faible pourcentage des gens qui sont là s'intéressent à la course. C'est plus faire du social, tu sais. T'as ta belle habit, t'as sorti ta belle robe, puis là, t'as un petit verre de champagne dans les mains, puis là, tu te plains parce que ça fait trop de bruit. Tu sais, t'es invité au Grand Prix, mais tu te plains parce que là, les puits sont juste là. Il aurait pu mettre ça ailleurs, tu me sens que ça fait du bruit. Alors, tout ça...
C'est très drôle.
Et le soir, il y a des grandes soirées un peu partout dans les hôtels. Les chambres coûtent des prix de fou. C'est comme si on devenait fou le temps d'un week-end. Mais quand
mais
tu
donc...
vois la vraie...
Oui, ouais. Mais donc,
la
c'est
vraie
ça...
richesse.
Oui, la vraie richesse... Oui, non, mais je veux juste revenir, mettons au vrai monde, là, c'est-à-dire des vrais amateurs. Essaye de m'expliquer, parce que t'as toujours été mon professeur de voiture 101, Michel, qu'est-ce qui est trippant? C'est la vitesse? C'est l'admiration pour les pilotes?
Ben, d'abord, là, la course automobile, c'est un un sport très exigeant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste de s'asseoir dans une voiture puis d'appuyer à fond sur l'accélérateur. C'est vraiment, c'est la haute technologie au niveau d'automobile qui se transférera éventuellement au niveau de la voiture que vous conduisez tous les jours. C'est des gens qui prennent des risques de moins en moins parce que les voitures sont de plus en plus sécuritaires. Il y avait un côté très guerrier, chevalier à une certaine époque où on pouvait perdre dans la même saison deux ou trois pilotes. Mm. Et toute cette... Parce que piloter une voiture de course, j'aimerais ça un jour t'embarquer dans une voiture de course, tu vas faire quelques tours de piste, tu comprendrais que c'est pas donné à tout le monde de oui. piloter en Formule 1. C'est vraiment la crème de la crème. Et l'amateur, homme ou femme, ben, il va faire deux choses. Il va avoir des billets dans des estrades, ou il va endurer le soleil pendant des heures, ou la pluie, ou encore il va se réunir chez lui avec ses amis, faire une espèce de party de Formule 1. Pour le son, pour la vitesse, pour le risque, pour le risque parce qu'on souhaite pas que personne se blesse, mais il y a toujours une partie où il y a l'accident. Elle a tué l'accident, je pensais qu'elle allait mourir. C'est un grand spectacle que la course automobile et spécialement la Formule 1. Moi, je préfère la version nord-américaine du NASCAR, mettons. Parce que là, t'es plus col bleu. Là, c'est vraiment, là, moi, je prends pour tel pilote, mais moi, je prends pour telle écurie. Moi, je suis un gars de GM, de fois. Et c'est plus un tailgate party, ça mange des hot dogs. T'sais. Il faut aller à Daytona ou Daytona 500 en février à chaque année pour voir qu'est-ce que c'est la différence entre le glamour de la Formule 1 et les vrais amateurs de bagnoles qui veulent du bruit, qui veulent des chars à l'envers. Mm. Alors, c'est tout un univers. Et je parlais de richesse tout à l'heure. Quand on va au Grand Prix de Monaco, où là tu sais, t'as des yachts, là, des bateaux de luxe qui valent des millions et des millions, et là, tu rencontres des... tu peux croiser à Montréal, c'est versus Stallone ou George Harrison, ou je sais pas quoi. Mais quand t'es allé à Monaco, tu trouves ça un peu moins glamour que de marcher sur rue Crescent.
J'aime bien tout à l'heure quand tu nous parlais des crevettes grosses comme des bananes. Écoute, toi et moi, on a déjà été, on était aux États-Unis et enfin avec Richard, j'étais aux États-Unis. Et tu m'as emmené, il faut le raconter, non mais raconte-le, parce que t'arrêtais pas de me dire, tu vas voir Sophie, les courses c'est le fun, puis moi ça me tentait pas d'y aller, finalement t'as réussi à me convaincre, et la seule chose que j'ai aimé de ma soirée, c'est les dog-dog, parce que j'aime ça manger des petits dog-dog, mais c'était très particulier, parce qu'en plus, la soirée commençait, puis c'était des enfants qui pistaient, c'était des enfants, des mineurs là qui couraient. Oui, la relève.
Oui, parce que pour se rendre en haut, là, écoute, je tente une drôle de comparaison. Les gens qui ont des enfants qui ont joué Pee-wee ou qui ont suivi leurs enfants dans les arénas à 7 heures le matin, ça, là, c'est l'enfant, la jeune fille, le jeune homme qui rêve un jour de faire la Ligue nationale. Ben, là où je t'ai amené dans le Maine, c'est une piste de stock car locale, ce qu'on appelle les local racetrack, tu sais, les pistes locales, il y en a un peu partout, il y en a de moins en moins, malheureusement, au Québec. Mais, justement, c'est les jeunes, ou les moins jeunes, qui, avec des voitures qui coûtent pas tellement cher, se compétitionnent entre eux, en souhaitant qu'il y en ait un en gang qui aille au circuit plus gros, et plus gros. Et éventuellement, devenir comme Raphaël Lessard, notre jeune pilote de NASCAR, qui ira un jour dans les grands circuits, ce qu'il fait déjà. Alors, c'est la même affaire. Moi, je t'ai amené au Pee-wee, là. Quand je suis allé voir les courses là-bas, où il y a de la démolition, puis ça sent le hot dog, puis il y a l'hymne, et là qu'on voit à quel point ils sont près de leur hymne national, tout le monde.
Ah oui. Là. Écoute, ah oui, dans le Maine, c'était quelque chose.
Ça, partout aux États-Unis, hein, dans toutes les courses. Mais là, t'as assisté, mettons, au côté fond de cour de la course automobile, mais où il y a une espèce de vérité, une espèce d'authenticité.
Oui, tout à fait.
T'as bricolé ta bagnole avec tes chums dans le fond du garage, puis là, tu souhaites gagner samedi soir, puis tu vas prendre une petite bière après, puis tu vas te prendre pour des Lunhart. Alors, j'aime ça parce qu'il y a une vérité. Une vérité qui finit par se perdre en chemin, mais la base de tout ça, t'as haï ça pour mourir, mais moi, tu vois...
Mais j'aimais ça être avec toi, là, je me suis bien amusé, mais...
Oui, et si t'étais venu avec moi, mettons, je reviens au Daytona 500, mais là, tu aurais vu à quel point il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes pour qui c'est un retour vers la Mecque. Là. C'est vraiment l'événement. Là. Puis là, ça a des casquettes avec toutes sortes d'affaires dessus, des canettes de bière, des gros pick-up. C'est l'Amérique profonde qui se réunit pour regarder des courses de chars.
Mais c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que j'avais envie de te parler à toi, parce que t'en parles avec une sincère passion, puis aussi, c'est le vrai monde, c'est la vraie vie. Alors que, bon, ben, c'est ça, sur la rue Crescent, avec le champagne qui coule à flot, c'est autre chose. Une dernière question, Michel. J'ai noté, parce que tu m'as dit, dans ton plaidoyer très convaincant sur la course automobile, les Grands Prix de Formule 1, t'as dit c'est un sport exigeant. Je reviens sur le mot sport, c'est un sport pour toi.
Ben c'est un oui, mais pour tous ceux qui parce que il faut ces gens là, tu sais, c'est drôle parce que j'ai parlé récemment de vol à 1.18 puis de G, puis c'est un physiquement c'est extrêmement exigeant, c'est des gens qui s'entraînent, qui se nourrissent comme du monde, c'est des athlètes. Si on se dit, ben non, si on va assis dans une voiture, ils vont vite. Non. Je vous dis, quelqu'un qui n'est pas en forme, là, d'abord, il ne sera pas capable de rouler à cette vitesse-là, il n'aurait pas le talent. Mais même s'il l'avait, s'il n'est pas en forme, après deux tours, il ne rentre plus, il perd connaissance. Là. La chaleur, le nombre de G, le stress occasionné par la course. Alors, c'est vraiment des athlètes. Il faut arrêter de penser que c'est juste des multimillionnaires qui ont des belles voitures qui vont vite. C'est vraiment un sport et qui mérite vraiment le titre de grand sportif, de sportif
parfait.
De haut niveau.
Ben écoute, je suis contente d'avoir posé la question, je suis contente que ce soit toi qui y ait répondu et je suis contente de la réponse. Génial, merci beaucoup Michel Barrette, c'est toujours un plaisir de te parler. Puis Dieu sait où on va se retrouver cet été, toi et moi, peut-être dans le fin fond du Maine en train de manger des hot dogs. On sait jamais ce que la vie nous réserve.
Pourquoi pas? Merci Sophie, je t'embrasse.
Merci beaucoup Michel.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Il y a beaucoup de festivals en ce moment un petit peu partout au Québec. Bon, il y a festival de jazz, les Franco qui commencent, mais il y a un festival vraiment différent des autres, c'est le Dépistafest. Vous avez peut-être vu des affiches un petit peu partout pour annoncer ce festival-là. C'est un festival assez unique de dépistage des ITS au Québec. On nous invite à festoyer FE2SE, comme dans les fesses. Ben oui, on va en parler avec Emmanuelle Garraud. Elle est spécialiste en santé sexuelle du Club Sexu. Bonjour, Madame Garraud.
Bonjour.
Alors, j'ai vu des affiches donc pour annoncer ce festival. C'est assez amusant. Pourquoi faire un festival de dépistage des ITS, donc des infections transmises sexuellement?
Pour tout plein de raisons. Avec la COVID, on avait vu une altération assez importante des services de dépistage des ITSS. Les ressources matérielles humaines étaient relocalisées pour les efforts COVID. On avait vu aussi qu'avec la pandémie, la population était beaucoup plus familière avec les notions épidémiologiques de base, là, comme les modalités de transmission, les mesures préventives. Donc, on s'était dit, bon, ben le contexte est parfait pour mettre en branle ce projet-là qu'on couvait depuis longtemps au Club Sexu, étant donné que depuis les 20-25 dernières années, il y a une hausse là, assez significative des ITSS. Au Québec comme ailleurs. Donc, on se disait que c'était un bon moment pour mettre sur pied ce festival-là, pour mettre de l'avant le dépistage, pour enlever le tabou autour du dépistage et des ITSS, pour en parler, puis pour promouvoir en fait ce comportement de santé-là.
D'accord. Quand vous dites le tabou, moi j'ai toujours une surprise quand j'entends que en 2022 il y a encore des tabous face justement aux ITSS, face au dépistage et tout ça, alors qu'on a l'impression que 2022 on en parle tellement, puis on a tellement évolué, on pourrait penser que justement la jeune génération aussi serait très décomplexée par rapport à tout ça.
Oui, ben on pourrait penser ça, mais en fait la réalité c'est que c'est pas tout à fait ça. Les études montrent que les jeunes, même si c'est le groupe considéré plus à risque pour les ITSS, se sent pas concerné, se sent pas à risque justement des ITSS. Et il y a quand même encore ce tabou-là de dire ben oui, je m'en vais me faire dépister régulièrement. Des fois les gens sont gênés d'en parler à leur médecin de famille habituel, si ça fait longtemps qu'ils sont en couple monogame, de dire oui, j'ai besoin d'un dépistage. De parler des pratiques sexuelles aussi différentes pour ajuster le test de dépistage en fonction de ces pratiques-là. Donc, il existe encore un très grand tabou face aux ITSS, face à à avoir une ITSS face à le dire à ses partenaires qu'on a une ITSS, de recevoir aussi l'annonce d'un diagnostic positif. Donc, ce tabou-là est encore vraiment très présent et c'est ce à quoi on veut s'attaquer avec cette campagne-là, finalement, ce festival, pour un peu décomplexer la situation puis ouvrir la discussion.
Oui. Quand vous dites qu'il y a une réticence à prévenir les partenaires sexuels, les partenaires sexuels, ça me met un petit peu des frissons dans le dos, Madame Garreau, parce que c'est quand même la base. Comment on fait pour convaincre les gens que quand ils ont une ITS, que c'est important de prévenir les gens avec qui ils font des parties de jambes en l'air?
Ben, d'abord, juste d'en parler, de rendre ça vraiment décomplexé, d'en parler, d'enlever le tabou, de rendre ça le fun, de célébrer le comportement de dépistage plutôt que de le voir de façon négative. Déjà là, ça aide à ouvrir le dialogue. Ensuite, c'est sûr qu'il existe, là, on a plusieurs partenaires là, de campagne, et certains partenaires offrent le service d'annoncer le diagnostic de façon anonyme aux partenaires concernés. Donc, si on est trop timide de le faire, si c'est trop difficile, si on a peur de le faire, on peut passer par ces services-là qui vont s'occuper là, de A à Z de nous encadrer là, pour l'annonce aux partenaires. On a aussi sur le site de la campagne dépistafest.ca des articles, des contenus pour nous aider à en parler avec nos partenaires.
Oui. Quand vous dites de façon anonyme, je suis vraiment désolée, peut-être j'ai pas bien saisi, mais comment, si on a un partenaire ou des partenaires qu'on a une ITS, comment on peut informer nos partenaires de façon anonyme? Je suis désolée, je le comprends pas, ce bout-là.
En fait, s'il y a des organismes communautaires qui permettent qu'on les contacte, si on a un diagnostic positif, on peut contacter ce partenaire-là, le portail VIH-SIDA. Et on donne les coordonnées en fait de nos partenaires avec qui on a eu des contacts sexuels qui pourraient être à risque d'avoir contracté l'ITSS également. Et c'est l'organisme qui va se charger de contacter les personnes concernées pour dire « Écoutez, vous avez eu des contacts sexuels avec une personne qui a testé positive à telle ITSS. Voici les ressources, on vous recommande de vous faire dépister. » Donc, ce genre de service-là existe.
D'accord. Donc, la personne va se faire contacter, mais on ne lui dira pas qui lui aurait possiblement transmis une ITSS. On fait simplement dire, parmi les partenaires que vous avez eus, il y en a un ou une qui a testé positif, donc allez vous faire tester à votre tour pour éviter qu'on ait à l'annoncer nous-mêmes. Je comprends. D'accord. Je veux juste revenir sur votre... Oui, mais c'était très intéressant, puis c'était important d'en parler parce que je savais pas du tout que cette possibilité-là existe. Et c'est important d'informer les gens que cette possibilité-là existe. Je veux juste revenir. La raison pour laquelle moi je vous ai appelé et que j'ai demandé à mes collègues de vous appeler, c'est que David Lahaye, le comédien David Lahaye, a mis sur ses médias sociaux une photo de votre poster, de votre affiche, qui annonçait l'événement, parce que la campagne est vraiment super bien faite. Donc, on voit, c'est marqué « Dépistafest »,« Mieux festoyer », et là, on a imaginé comme si c'était un festival de musique qui seraient les participants, qui seraient les musiciens qui viendraient jouer dans ce festival. Alors, c'est rempli de jeux de mots vraiment rigolos. « Chlamydia Lupa »,« Gono and the Gang », attendez, j'en avais trouvé, « Bobette Marley », c'est vraiment rigolo, Lady Phyllis. Je trouve que c'est très intelligent comme façon de faire des jeux de mots avec différentes ITS, puis donc l'approche ludique, l'approche rigolote, ça fonctionne ça?
Oui, c'est ce qui nous permet en tant qu'organisme là, communautaire d'avoir plus de latitude dans les campagnes parce que les initiatives de promotion de la santé ou promotion de la santé sexuelle sont vraiment difficiles à réaliser parce que le succès de ces initiatives-là, c'est l'absence d'événements indésirables. Donc, le succès, le but visé, c'est l'absence de maladie dans ce cas-ci. Le succès comme invisible. Donc, c'est très difficile de motiver les gens à adopter des comportements de santé préventifs parce que la motivation, l'incitation à le faire n'est pas tangible. Donc, avec le dépistage, un des objectifs, c'est rendre ces comportements préventifs-là associés au dépistage du CSS le fun, célébrer. On ne soit pas gêné de partager la campagne parce que, justement, c'est drôle, c'est le fun, c'est des jeux de mots, c'est ludique. Donc, le fait de rendre ça, d'enlever le tabou, de rendre ça vraiment le fun, on a le goût de partager ça, ça permet d'aller chercher un peu plus la population puis de les faire embarquer dans cette initiative-là plutôt que si on utilisait des approches de risque qui, selon la littérature scientifique, là, fonctionnent beaucoup moins bien que des approches plus de promotion de la santé.
D'accord. Ben, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ces affiches-là, mais manifestement, David Lahaye aussi. Donc, j'encourage tout le monde. Mais c'est le fun de ce genre de jeu de mots, de rigoler un petit peu avec ça, d'utiliser un peu l'humour et l'ironie, c'est vendeur. Emmanuel Garreau, vous êtes spécialiste en santé sexuelle au Club Sexy. J'encourage tout le monde, donc, à aller se renseigner sur le festival, attendez, faut pas que je me trompe, là, le Dépista Fest du 26 enfin, c'est jusqu'au 10 juin. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci à vous.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
La semaine dernière, à l'émission, je vous avais proposé une entrevue avec Cédric Beaumier, qui est étudiant à la maîtrise en droit notarial, parce qu'il avait écrit un texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, au sujet de la minorité anglophone au Québec, un texte qui avait beaucoup fait jaser, une entrevue qui avait aussi beaucoup fait jaser. Eh ben, il récidive cette semaine. Cédric Beaumier, donc, a écrit aussi une lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Pour une immigration au service de la nation ». La nation avec un N majuscule. Alors, pour parler d'immigration, pour parler de nation, pour parler de François Legault, Cédric Beaumier est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Beaumier.
Bonjour, Madame Durocher, ça va bien?
Moi, ça va très bien. Écoutez, vous écrivez cette lettre où vous réfléchissez donc à voix haute, on peut dire ça comme ça, sur tout le débat qu'il y a depuis quelques jours, depuis quelques semaines, autour de l'immigration. Est-ce que l'immigration peut sauver la nation québécoise qui est en péril? Et aussi cette expression qu'a utilisée François Legault sur la crainte que le Québec devienne comme une Louisiane. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Comment il aurait dû formuler ça, M. Legault?
Eh bien, moi, je pense, comme j'ai vu plusieurs personnes aussi mentionner ce fait, il aurait peut-être dû ne pas utiliser la Louisiane, qui est un terme un petit peu fort, mais peut-être plus le mot Acadie, acadiation, si on voudrait le dire. Parce qu'il ne faut pas regarder bien loin pour voir qu'est-ce que le Québec pourrait devenir dans un futur non très lointain. On a juste à regarder à nos voisins dans l'Est, on a juste à regarder au Nouveau-Brunswick pour voir comment une province qui était autrefois parfaitement bilingue est aujourd'hui une province majoritairement anglophone où le français est de plus en plus abandonné.
Oui, et c'est intéressant d'ailleurs parce que on a eu des exemples récemment au Nouveau-Brunswick où le gouvernement fédéral, donc Justin Trudeau, a nommé comme lieutenant-gouverneur général au Nouveau-Brunswick une unilingue anglophone. Bon, il s'est fait rabrouer, donc il est revenu sur sa décision, mais il reste quand même que c'est assez particulier parce que le Québec, c'est la seule province francophone, elle est en train de devenir de plus en plus bilingue. La seule province qui est bilingue est en train de devenir de plus en plus unilingue. On a l'impression que les lignes, les frontières sont en train de bouger, là.
Ah ben oui, certainement. Si on regarde les statistiques, bien que le Nouveau-Brunswick soit considéré comme la seule province bilingue, c'est le Québec qui compte le plus haut taux de pourcentage de personnes bilingues au Canada. Le Nouveau-Brunswick est quand même relativement très anglophone et très minoritairement francophone. C'est pas réellement une province bilingue aujourd'hui.
Donc, il faut faire attention, peut-être pas de devenir la Louisiane, mais en tout cas de devenir le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, comme vous dites. Dans votre texte, vous réfléchissez sur l'immigration et vous insistez sur l'importance de l'immigration pour préserver une certaine culture au Québec. Expliquez-nous ce que vous aviez en tête quand vous avez écrit ce texte-là.
Eh bien, j'ai lu beaucoup les propos de François Legault ces derniers temps concernant le rapatriement de l'immigration. Et puis, M. Legault mentionne souvent qu'il faut rapatrier les pouvoirs d'immigration pour sauver le français au Québec. Mais à mes yeux, le Québec, c'est pas juste la langue française. Les Québécois, les Canadiens français ont une identité propre, on a une histoire, on a une culture à préserver.
Et vous sentez qu'elle est menacée? C'est-à-dire que si, en effet, il n'y a pas... quelles pourraient être les conséquences, justement, si, selon vous, si on ne rapatrie pas ces pouvoirs-là en immigration de la part du fédéral?
à mes yeux, si on ne rapatrie pas ces pouvoirs d'immigration-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va tomber dans une sorte de nationalisme civique, si vous voulez, où l'identité québécoise, l'identité canadienne-française va tout simplement cesser d'exister, si vous voulez. Et on va prôner un nationalisme qui n'est plus du tout identitaire, où nous n'aurons plus aucune identité, où le peuple québécois cessera d'exister et tout le monde pourra finalement devenir québécois. Moi, ce que je veux éviter au final, c'est de pas limiter le peuple québécois à sa langue. Ce que je veux, c'est que, oui, on peut devenir québécois, mais il faut réaliser aussi qu'on a une culture à préserver. Et que quand on ramène trop d'immigrants et qu'on n'a pas la capacité de tous les intégrer comme il se devrait, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est un certain choc civilisationnel.
Oui, je comprends. Par contre, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui vont dire, bon, Monsieur Beaumier, il enrobe son discours dans des belles phrases, dans des beaux mots, mais dans le fond, ce qui se cache derrière ça, c'est une crainte de l'assimilation, une crainte de la dilution, et c'est facile de voir l'espèce de pente glissante qu'il y a à côté de ça. Comment vous pourriez rassurer des gens qui verraient dans votre discours une pente dangereuse?
Moi, j'y vois pas une pente dangereuse, mais comme je le dis dans mon texte, toutes les cultures doivent être célébrées. La question ici, c'est pas de faire une hiérarchisation de toutes les cultures. On ne vient pas prétendre que la culture québécoise est supérieure. On veut pas que les immigrants viennent et qu'ils s'assimilent à 100% à la culture québécoise. Tout ce qu'on veut, c'est simplement faire en sorte, vous mentionnez le mot diluer, mais c'est exactement ça. On veut essayer d'éviter une certaine dilution de notre culture. On veut pouvoir demeurer majoritaire parce que le Québec sans la culture québécoise, au final, c'est pas le Québec.
C'est intéressant parce que vous mentionnez, c'est comme si on disait le Japon sans la culture japonaise, tout le monde va comprendre l'exemple. Pourquoi, quand on parle de la culture québécoise, puis qu'on veut la préserver ou la bichonner, la valoriser, pourquoi on se fait traiter de xénophobe puis de repli sur soi? Partout à travers la planète, des peuples qui célèbrent leur culture, je pense, l'Ukraine, je pense à, c'est-à-dire, même l'Italie, même les pays d'Afrique, n'importe où, partout en Asie, on célèbre la culture, on assure sa pérennité, tout le monde applaudit. Puis au Québec, quand on dit on veut maintenir une culture, on veut la maintenir en vie, la célébrer, on se fait taper sur les doigts en disant, ben oui, t'as peur de l'autre. Pourquoi? Comment vous expliquez ça, Monsieur Beaumier?
La réponse simple, c'est relativement inexplicable. C'est aujourd'hui, on a une conception très civique de l'identité québécoise. Aujourd'hui, on a l'impression que être québécois, c'est simplement vivre sur le territoire du Québec. Quiconque viendrait et refuserait de s'intégrer à nos mœurs, à nos coutumes, à notre culture, serait qualifié de québécois. Ce serait pas le cas presque partout à travers le monde, partout en Asie, en Europe de l'Est, dans les pays du Balkan. N'importe où, si une personne va dans ce pays et qui refuse de faire une certaine intégration à la culture de ce pays, jamais il va se faire considérer comme appartenant à ce peuple. Mais pourtant, au Québec, on a une conception très civique où que dès que quelqu'un vient habiter le territoire, il peut s'isoler dans certaines communautés et vivre selon ses propres mœurs, selon ses propres coutumes. Complètement rejeter la culture québécoise dans son ensemble et tout de même être considéré comme québécois tout simplement parce qu'il réside sur le territoire, a un emploi, fait des impôts.
Monsieur Legault, donc, fait ces demandes-là à Ottawa, demande plus de pouvoir, se fait répondre non une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À quel moment, selon vous, et c'est ce que vous évoquez dans votre lettre, Monsieur Legault va sentir renaître en lui le René Lévesque qui sommeille, et à quel moment il va se rendre compte qu'à force de se faire dire non par Ottawa, il faut qu'on se dise oui à un pays?
À mes yeux, M. Legault, la deuxième fois, il aurait dû se réveiller et puis se dire, bon, ben, le seul moyen réaliste d'obtenir un rapatriement des pouvoirs, notamment en immigration, c'est l'indépendance, parce qu'au final, l'indépendance, c'est le rapatriement de tous les pouvoirs au Québec. Mais là, c'est à mes yeux, c'est complètement inimaginable de voir sincèrement Justin Trudeau, notamment avec l'initiative du siècle, Century Initiative, permettre au gouvernement de M. Legault de rapatrier les pouvoirs en matière d'immigration. C'est complètement inimaginable pour moi. Donc, M. Legault va devoir faire un choix. C'est soit il continue dans une lancée très, très électoraliste, si on voudrait dire, à tenir tête au gouvernement fédéral en sachant très bien que M. Trudeau ne va jamais permettre le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration au Québec, ou bien il décide que le moment est venu pour faire renaître ses ambitions indépendantistes, parce que M. Legault a longtemps été indépendantiste avant.
Absolument.
Et puis, ouais, se dire que le moment est venu, le peuple québécois est prêt à avoir son pays et il faut remettre le sujet en jeu.
Très intéressant, ça va être à suivre. Alors merci de continuer, M. Beaumier, à partager vos réflexions avec les lecteurs du Journal de Montréal, Journal de Québec et les auditeurs de Cube Radio. Donc je rappelle que vous avez écrit cette lettre ouverte dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Pour une immigration au service de la nation ». Et je rappelle que vous êtes étudiant à la maîtrise en droit notarial. Merci beaucoup, M. Beaumier.
Merci à vous.
Et c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la réalisation, à la mise en onde et au soutien moral. Toujours de bonne humeur, Jean-François Roy. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci également à Frédéric Houle, à Charlotte Duquette et à Jean-Nicolas Gagné, à la recherche, qui donne tout le monde un coup de main et l'épaule à la roue. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve évidemment demain.
Cube Radio.